Europe 1. C'est arrivé cette semaine, se poursuit avec vous Patrick Cohen.
Bonjour Christian Clot.
Bonjour.
Je vais commencer cet entretien comme une fiche signalétique. Votre nationalité ?
Suisse et français.
Les deux. Et votre profession ?
Explorateur-chercheur.
Alors ça, c'est extraordinaire parce que je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens sur cette planète qui puissent afficher ça comme un métier. C'est un nom qui fait rêver, qui a fait rêver des millions d'enfants et d'adolescents. Mais on se dit que c'est fini, tout a été exploré, chaque recoin de la planète est connu. Et avec vos expéditions et vos expériences, vous démontrez le contraire. Vous racontez que vous avez eu la révélation de ça il y a 20 ans au Népal.
Oui, moi j'étais comme beaucoup d'amis, aventurier. Je partais dans le monde entier, je faisais de la montagne, je faisais plein de choses. Et puis un jour, je suis parti au Népal faire le tour du Népal à pied. 800 km de long, 200 km de large, 6 mois et demi d'expédition. Et puis là, on arrive dans des zones où il n'y avait pas du tout de cartographie, dans l'extrême ouest. Et dans ces zones où il n'y a pas de cartographie, on a rencontré des populations qui n'avaient encore jamais vu de personnes extérieures, donc d'étrangers, de blancs, entre guillemets, qui arrivaient, qui avaient des fermetures éclairs. Ils n'avaient jamais vu une fermeture éclair, jamais vu un nylon, voilà. Et ça, c'était une révélation, d'abord parce qu'ils ont découvert notre monde, mais aussi nous ont montré le leur ensuite. Et là, j'ai réalisé à ce moment-là que cette idée qu'on savait déjà tout, qu'on avait toute la connaissance, qu'on avait rencontré tout le monde, était totalement fausse. Et j'ai décidé de basculer vers ce métier d'exploration.
Vous êtes devenu un aventurier de l'extrême, avec des expériences. Un mois dans le désert le plus chaud du monde, en Iran, 58 degrés la journée, 46 la nuit. Un mois dans la région la plus froide et la plus sèche, en Sibérie. Un mois en Patagonie. Vous êtes projeté dans une eau à 2 degrés. Normalement, on survit combien de temps ?
On dit qu'on survit 5 minutes dans une eau de ce type-là.
Et vous êtes resté ?
Je suis resté une petite vingtaine de minutes. Mais c'est là qu'on voit aussi cette projection mentale. C'est que mon premier réflexe, quand je tombe dans cette eau, je sais qu'elle est à 2 degrés et je sais que je vais devoir rester plus de 5 minutes parce que mon embarcation est trop loin. Et mon premier réflexe, c'est de me dire « c'est foutu ». Et ça, je crois que c'est un réflexe qu'on a tous face à des événements qui nous paraissent tellement énormes. Notre premier réflexe, c'est de dire « on m'a toujours dit que dans cette situation-là, c'était foutu ». Donc après, c'est la question, c'est ce qu'on fait de notre cerveau. Est-ce qu'on reste dans cet état d'esprit ou au contraire, on se dit « bon, de toute façon, je n'ai pas le choix, je suis dans cette eau, je dois bien essayer quelque chose ». Et quand on commence à travailler dans faire quelque chose face à une situation, on peut réellement transformer cette situation.
C'est une expérience de quoi ? De survie de...
Alors, sur l'instant, c'est une expérience de survie, mais c'est ce genre d'expérience que j'essaie de vivre, parce qu'aujourd'hui, moi, j'ai un institut de recherche qui questionne la capacité humaine d'adaptation, et notamment notre cerveau, comment il se transforme. Et toutes ces missions dont vous venez de parler, elles sont faites pour étudier notre capacité cognitive d'adaptation aux situations changeantes. Et ça tombe bien, parce que le monde change assez aujourd'hui pour qu'on se pose des questions.
Ben oui, alors là, c'est le grand froid, mais il y a aussi la chaleur. Qu'est-ce que vous avez appris, par exemple, dans le désert iranien, par ces températures qui sont... insensé.
Ce que nous apprennent vraiment ces milieux, c'est la temporalité. Dans un désert comme le désert du Dartelout en Iran, on a une systémique qui revient tous les jours. Tout est toujours pareil. Et il faut arriver à mettre son état d'esprit dans « ok, bah, je vais vivre toujours la même chose, donc je dois aller m'accrocher aux instants où je sais que ce sera mieux. » Par exemple, la nuit, où il fait un peu plus frais. Contrairement à une Patagonie où ça change tout le temps. Et là, on doit être en vigilance permanente. Et à chaque fois, notre cerveau doit réagir un peu différemment et on doit réussir à mettre son cerveau en adéquation par rapport à la situation réelle et pas celle qu'on aimerait avoir. Donc, en fonction des types de milieux, on doit s'adapter totalement. Et ça, c'est ce qu'on essaie de comprendre. C'est comment aujourd'hui, dans un monde qui change très vite, on va trouver les solutions pour qu'on puisse s'adapter.
Bon, comment peut-on être explorateur au XXIe siècle ? C'est le sous-titre de votre livre « Explorer demain » et vous posez la question vous-même à la fin de votre livre. Pourquoi ? Et si on laissait la planète, les dernières populations indigènes, les écosystèmes tranquilles, si on arrêtait cette progression sans frein qui porte en elle le fruit de notre propre destruction ? Et votre réponse, Christian Clot ?
C'est une vraie question, mais malheureusement, l'histoire a montré qu'on n'arrivait pas à arrêter l'innovation, qu'on n'arrivait pas à arrêter cette envie qui est fondamentalement ancrée en nous de continuer la progression. Donc comme on sait que c'est ancré et qu'on ne pourra pas l'arrêter, je crois qu'il faut la regarder et la maîtriser. C'est-à-dire qu'il faut continuer cette progression, ce questionnement, notre aventure humaine dans notre planète, puis peut-être au-delà. Mais il faut le faire en regardant et en prenant des décisions éthiques à chacune de nos actions. Je crois que l'exploration aujourd'hui, elle se doit d'être devenue une exploration éthique, une exploration de l'humain, une exploration de notre futur. Parce que finalement, quand on décide de faire quelque chose, qu'on commence à le faire, parce qu'il faut commencer, il faut bien essayer. Dès qu'on voit qu'il peut y avoir une limite, il faut savoir dire stop et partir sur une autre direction.
Vous explorez aussi les côtés moins reluisants de la planète et vous en voyez la dégradation ?
Oui, on voit des dégradations terribles. Au Népal, où j'étais justement il y a 20 ans, où j'arrive dans ces territoires où il n'y a pas de plastique et pas de verre du tout. 15 ans plus tard, quand j'y retourne, ils sont saturés de plastique. Dans les sols, ils ne peuvent plus cultiver tellement il y en a. Donc ça va très très vite. Des glaciers qui fondent, j'en ai vu beaucoup. Moi, je suis beaucoup plus inquiet par la pollution plastique et par la pollution des sols que par le réchauffement en tant que tel, qui évidemment est un problème aussi, mais ça va très vite, les pollutions. Et puis, il y a clairement aujourd'hui, on est 7,5 milliards sur la planète et il y a des gens qui sont aujourd'hui laissés pour compte. Et on doit chercher à comprendre comment on peut les aider, notamment toutes les migrations qui se passent aujourd'hui. Aujourd'hui, elles sont à quelques millions. Dans 20 ans, elles seront de 100 millions. Qu'est-ce qu'on fait avec ces personnes? Comment est-ce qu'on les aide? Et ça, c'est aussi partie du travail de l'explorateur aujourd'hui.
Explorer demain, quels sont vos projets d'explorateur aujourd'hui?
Alors les projets principaux, c'est continuer ce travail sur le cerveau. Donc on va partir dans une mission extraordinaire avec 20 personnes, 10 femmes et 10 hommes, dans 4 milieux différenciés, un peu ce que j'ai fait en solitaire, mais c'est pas avec un groupe, pour comprendre comment un groupe humain s'adapte. Et puis moi je travaille aussi sur toutes les personnes qui doivent s'adapter de manière obligatoire, notamment les migrants. Donc je pars avec des migrants sur le terrain pour voir ce qui se passe dans leurs travaux. Et puis avec des entreprises aussi, hein, qui sont en train de se modifier profondément. Et on étudie aussi des groupes pour notre. Donc finalement, l'exploration aujourd'hui, elle m'a amené à questionner non plus forcément le territoire. Ça, je crois qu'on a dépassé ce stade de l'exploration pour entrer dans une exploration de notre futur humain et de l'humanité en général.
Et je disais tout à l'heure que c'est un métier qui faisait rêver, un nom qui fait rêver. Et vous rappelez au début de votre livre, les grands explorateurs, quelques grandes histoires d'exploration. Et pour des jeunes ou des adolescents qui sont... À l'écoute, il y a dans votre livre une sorte de mode d'emploi. Comment devenir explorateur avec quelques règles?
Oui, je crois que c'est d'abord un état d'esprit. Il faut rester très ouvert à tout, il faut rester curieux, il faut être capable de ne pas se fermer à une information. On peut être très spécialiste dans un domaine, mais il faut savoir que ce domaine fait partie d'un tout, donc il faut regarder un peu partout. Puis surtout, il faut y aller, il faut oser. Il faut avoir ce rêve et oser suivre son rêve, parce qu'aujourd'hui, on nous donne beaucoup d'interdits, on nous dit beaucoup ce qui n'est pas possible. Et bien, l'explorateur, il doit aller chercher tout ce qui est possible au-delà de l'impossible. Et c'est un métier qui est merveilleux. Et quand on le voit comme ça, on peut toutes et tous être exploratrices et explorateurs, mais c'est une volonté qu'on doit garder au quotidien.
À condition de bien choisir ses cibles, ses destinations et ses moyens pour...
Oui,
pour ne pas être, pardon pour le jeu de mots, un explorateur qui explore à tort.
c'est pas faux. On a des exemples dans le passé qui ont montré la limite de notre métier, donc on doit l'intégrer. On ne peut plus aujourd'hui, et d'ailleurs c'est un vrai message pour toutes les personnes qui vont partir dans le spatial, c'est une promesse extraordinaire, hein, la Lune, Mars, moi je suis fasciné par ça, mais attention à ne pas reproduire ce qu'on a fait en Amérique par exemple. On n'a pas le droit aujourd'hui de se fermer à cette idée qu'on a l'information, qu'on a créé beaucoup de torts à certains moments, et qu'on a la possibilité de faire la même chose sans créer ce tort. Donc faisons acte de cette notion-là et agissons avec plus de dignité.
Explorer demain, le livre vient de paraître chez Robert Laffont. Merci beaucoup Christian Clos.
Merci.
D'être passé par le studio d'Europe 1 entre deux explorations. Merci à vous.
C'est un plaisir. Europe 1.